Question fréquemment posée sur les nouvelles lunes. Étude numéro 158. Un des aspects les plus difficiles de la loi de Dieu est celui des nouvelles lunes. Devraient-elles être observées? Si oui, comment? Devraient-elles être observées en tant que sabbat? Si oui, qu'en est-il de nos emplois? Le système mondial fonctionne de telle façon à rendre très difficile l'observance des nouvelles lunes en tant que sabbat, et le calendrier du monde les cache. Il y a plusieurs interrogations soulevées par cette question. Avant d'examiner les questions concernant les nouvelles lunes, nous devrions regarder brièvement le calendrier tel qu'établi par Dieu. Le calendrier sacré est basé entièrement sur la nouvelle lune. La première nouvelle lune de l'année est critique du fait qu'elle détermine le calendrier pour l'année. Nous lisons dans Exode chapitre 12, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Version Louis II. Si nous ne savons pas quand est le premier jour du mois, nous ne pouvons pas obéir à Dieu dans l'observance de n'importe lequel de ses festivals commandés, la Pâque, la Pentecôte ou les tabernacles. Nous ne pouvons pas correctement nous préparer pour eux. Par exemple, le premier jour du premier mois est le nouvel an et un jour solennel de fête, voir psaume 80 ou 81, versets 3 à 5. Nous lisons dans psaume 80 ou 81, versets 3 à 5. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, au jour glorieux de notre fête, car tel est le précepte en Israël, tel est le commandement du Dieu de Jacob. Il a mis ce témoignage en Joseph quand celui-ci sortit de la terre d'Égypte. Version Guiguet de la Septante. Le septième jour du premier mois, nous devons sanctifier les simples et les erronés. Voir Ézéchiel 45, verset 20. Le dixième jour du septième mois est le jour des expiations. Les 14 et 15e jours du premier mois sont critiques pour l'observance de la Pâque et des pains sans levain, etc. Chacune des dates importantes pour observer les fêtes telles que dictées par Dieu est déclarée dans la Bible comme un jour particulier d'un mois particulier. Comment savons-nous quand la nouvelle lune arrive? L'année sacrée de Dieu commence en Abib, ou Nissan, Nissan, voir Exode 12, verset 2. Ceci est déterminé à partir de la nouvelle lune la plus proche de l'équinoxe du printemps dans l'hémisphère nord, qui commence la saison d'été. L'équinoxe automnal dans l'hémisphère nord commence la saison d'hiver. Celles-ci sont les deux saisons mentionnées par la Bible, voir Genèse 8, verset 22, Psaume 74, verset 17. La méthode pour déterminer le mois d'Abib, qui signifie le printemps, est que la Pâque ne peut pas précéder l'équinoxe. Ainsi, le premier jour de la saison de la Pâque, le jour de la préparation du 14e jour du premier mois, peut tomber à l'équinoxe. Mais le premier jour saint de la Pâque, le 15 Nissan, doit tomber après l'équinoxe. Ainsi, le premier jour ou le jour de la préparation peut tomber à l'équinoxe, mais il ne peut pas précéder l'équinoxe et tomber dans la saison d'hiver du Nord. Et le 15e jour doit tomber après l'équinoxe. C'étaient les deux règles gouvernantes jusqu'à la révision d'Hillel de l'année 358 de l'ère courante. La nouvelle lune est un événement astronomique précis qui est parfaitement prévisible. L'événement peut arriver à des jours différents à cause de la rotation de la Terre. La détermination de la nouvelle lune, par conséquent, doit être déterminée à partir du moment où qu'elle arrive à Jérusalem, pour assurer l'uniformité de l'adoration religieuse partout dans le monde entier, étant donné la communication accrue. C'est basé sur les Écritures qui placent Jérusalem comme le trône de l'Éternel, voir Jérémie 3, verset 17, le centre de la loi et le point à partir duquel elle sera publiée sous le Messie, voir Ésaïe 2, verset 3, et par les eaux de l'Esprit, voir Zacharie 8, verset 22, et Zacharie chapitre 14, verset 8 à 21. Dieu a placé son nom là pour toujours, voir Deux Chroniques 33, verset 4. Tel que mentionné, le psaume 81, verset 3 se réfère à la nouvelle lune du premier mois. Cependant, la version de la Bible RSV et d'autres traductions ont rendu le texte « à la nouvelle lune, à la pleine lune, kéché » en hébreu. Si la pleine lune est correcte, alors elle doit se référer à un autre jour de fête. Comment peut-on expliquer cela? Réponse. Toute cette question repose sur l'idée que le mot « kéché », voir le dictionnaire hébreu de son numéro 3677, se réfère à la pleine lune. Pourtant, dans la version King James de la Bible, c'est traduit pour lire au temps fixé, et la pleine lune n'est pas mentionnée dans cette traduction. Le mot Keshé, SHD ou dictionnaire hébreu de Strong numéro 3677, est dérivé de la racine SHD 3680, qui est Kaka. Ce mot est une pré-racine signifiant redonner du volume ou remplir les creux et se couvrir pour se vêtir ou la discrétion, signifiant se couvrir d'une couche protectrice, fermer, se vêtir, cacher, se couvrir, fuir, se cacher ou submerger. Cela n'a rien à voir avec la pleine lune, mais plutôt à un instant où la lune est cachée de notre vue. Strong tombe aussi dans le piège de l'inclusion de la pleine lune comme signification de base menant à fixer, mais dit spécifiquement que cela signifie fixer plutôt que pleine lune. Toutefois, il convient de noter que le mot hébreu « keché » ne signifie pas autant fixer. Il signifie « quand elle est cachée ». Ceci est prouvé dans le Talmud babylonien à la page 13 où nous lisons. Il est écrit, entre parenthèses psaume 81 verset 3, « Soufflez à la nouvelle lune la trompette, au temps où elle, la nouvelle lune, est cachée au jour de notre fête. » L'interprétation du Talmud rétablit, ainsi que Philo, que la nouvelle lune doit être célébrée quand la lune est cachée, entre parenthèses à la conjonction, et non pas à l'observation du croissant de lune. Puisque le Talmud a été écrit au IIe siècle, bien avant le changement au IVe siècle du psaume 81 pour dire « à la pleine lune », c'est une pièce d'information historique très importante. Certaines personnes rendent le texte comme pleine lune, car ne pas le faire signifierait qu'elles doivent observer la nouvelle lune d'Abib comme un jour solennel de fête. Cela ne convient pas aux Juifs, ou aux Trinitaires, ou aux Karaïtes. Green, par exemple, se fait aspirer dans cette erreur. Les Karaïtes, en particulier, ne veulent pas le faire, parce qu'ils ont corrompu et perverti les Saintes Écritures, et l'ont fait depuis le XIIe siècle. Leur petite hérésie particulière n'existait pas jusque-là. Dans la période du Temple, la nouvelle lune d'Abib était le nouvel an, et était une fête solennelle, et elle était déterminée selon la conjonction, telle que nous le savons par Philon, et les anciennes autorités et du Talmud comme nous l'avons vu auparavant. Voir aussi l'étude « La lune et le nouvel an », étude numéro 213. Est-ce que la Bible fait mention du nom des mois? Réponse. La Bible fait mention de certains des noms des mois, mais pas tous. Elle fait aussi mention de certains mois par leur nom cananéen. C'est la pratique normale pour les Samaritains, par exemple, d'utiliser les nombres tels que le premier mois, le deuxième mois, etc. La pratique juive moderne est d'utiliser les noms, dont la plupart sont dérivés du babylonien. Ils sont 1. Nissan, correspondant en mars-avril, ou Abib, en cananéen. 2. Iyar, correspondant à avril-mai, ou Ziv, en cananéen. Le troisième mois, Sivan, correspondant à mai-juin. Le quatrième mois, Tammuz, correspondant à juin-juillet. Le cinquième mois, Ab, correspondant à juillet-août. Sixième mois, Elul, correspondant août-septembre. Le septième mois, Tishri, correspondant septembre-octobre, ou Etanim en cananéen. Le huitième mois, Marchevin, octobre-novembre, ou Boul en cananéen. Le neuvième mois, Shlev, novembre-décembre. Le dixième mois, Tebet, décembre-janvier. Le onzième mois, Shebat, janvier-février. Le douzième mois, Adar, février-mars. Le cycle de 12 mois lunaires, entre parenthèses 354 jours un quart, ne correspond pas à l'année solaire, 365 jours un quart. Le festival du printemps de la Pâque Mazot, qui commence le cycle des fêtes agricoles, doit être observé à un temps précis de l'année, au début de la récolte d'orge. La gerbe agitée était le premier fruit de cette récolte, et représentait Christ étant présenté devant Dieu en tant que le premier-né d'entre les morts. Voir l'étude de l'offrande de la gerbe agitée, étude numéro 106b. Il est donc évident la raison pour laquelle le mois intercalaire est placé en Adar, à la fin de l'année, et non pas le premier mois, Nissan, entre parenthèses mars-avril, ou Abib, en cananéen. Le mois intercalaire est Oéadar, ou entre parenthèses Éadar, selon M. Ned, voir le dictionnaire Interpreter's Dictionary of the Bible, volume 1, page 487. Les calculs rabbiniques montrent que cette année, tous les 19 ans, ont un mois supplémentaire, que nous appelons Adar 2. Entre parenthèses, beaucoup de ce qui précède est tiré de l'étude Le Calendrier de Dieu, hein, étude numéro 156, que vous pouvez consulter et télécharger gratuitement sur le site ccg.org/french. Et cette étude devrait être lue dans son intégralité. Voyons maintenant les nouvelles lunes et le sabbat. Question. Est-ce que les nouvelles lunes doivent être observées en tant que sabbat? Réponse. Il a été soutenu que ce n'est pas à la personne de réfuter que les nouvelles lunes sont des sabbats, mais de constater que suffisamment de preuves démontrent qu'elles le sont. Les nouvelles lunes étaient observées comme des sabbats dans l'ancien Israël, Les nouvelles lunes sont toutes des jours significatifs et importants. Elles sont des jours de sacrifice et d'adoration. Les reconnaître est capital pour les observer. Mais est-ce que cela signifie qu'elles sont des sabbats? Nous avons vu auparavant que la première nouvelle lune de l'année est un jour solennel de fête. Ainsi, l'une d'elles est au moins un sabbat. La nouvelle lune du septième mois est aussi le jour des trompettes, et de là aussi un jour solennel de fête. Nous verrons dans les autres textes que les nouvelles lunes étaient des jours d'assemblée et que Dieu a traité avec Israël et le monde à ces jours des nouvelles lunes. Il a parlé par ses serviteurs les prophètes ces jours-là. Question. Où peut-il être montré que la nouvelle lune est un sabbat, qu'aucun commerce ou travail ne peut être fait ce jour-là? Réponse. Les textes les plus clairs que nous avons sont dans Exode, à la sanctification du temple, en tant qu'un jour d'assemblée solennelle, et aussi dans Amos, chapitre 8, verset 5. Amos réprimande Israël d'avoir hâte que le sabbat et la nouvelle lune soient terminés pour qu'ils puissent commencer à faire du commerce. Il les observait, mais Dieu n'était pas content du fait qu'ils ne les observaient pas d'un cœur entier et qu'ils avaient hâte qu'ils se terminent pour commencer à faire du commerce. Nous lisons dans Amos chapitre 8, verset 5. Vous dites, « Quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les fats, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. » Version Louis II. Question. Amos, chapitre 8, verset 5, qui est la seule autre place qui parle de commerce et d'une nouvelle lune, est ambigu. Est-ce que c'est une référence générale à toutes les nouvelles lunes? Ou pourrait-il avoir rapport au jour des trompettes seulement? Ou pourrait-il même être une référence à une exigence saisonnière, comme avec les restrictions des nouvelles et anciennes récoltes marquées par l'offrande de la gerbagité? Réponse. Il n'y a rien dans ce verset pour indiquer qu'il traite d'une récolte spécifique ou du jour des trompettes. Par conséquent, le texte devrait être lu comme il est écrit, comme une déclaration générale en rapport aux nouvelles lunes et au sabbat. En prenant le verset dans le contexte, le chapitre traite du mécontentement de Dieu envers son peuple. Il est en colère parce que les sabbats, les nouvelles lunes et les fêtes ne sont pas observés correctement et que les gens ne se traitent pas avec justice les uns les autres. Nombre 10, verset 10 déclare que les trompettes devraient être sonnées à toutes les nouvelles lunes. Question. Donc, vous êtes en train de dire que les chrétiens doivent aujourd'hui observer les nouvelles lunes en tant que sabbat, c'est-à-dire aucun travail servile et se réunir avec d'autres si c'est possible? Réponse. Oui, elles doivent vraiment être observées en tant que sabbat. Le Messie les réintroduira et va les faire respecter avec le sabbat quand il retournera, voir Ésaïe 66, verset 20 à 23, ensemble avec les autres fêtes de Dieu, voir Zacharie 14, verset 16 à 19. Cette question est complexe. Et les nouvelles lunes sont la dernière partie dans la restauration de la compréhension de l'individu. Il y a une série d'études sur ces nouvelles lunes. Référez-vous à la liste d'études citées à la fin de cette étude. Question. Pourquoi Lévitique ne les mentionne-t-il pas? Pourquoi Néhémie chapitre 10 verset 31, qui parle de ne pas faire du commerce durant les sabbats et les jours saints, ne mentionne-t-il pas les nouvelles lunes? Et ensuite, deux versets plus loin, parle des sacrifices. Et mentionne-t-il ici les nouvelles lunes avec les sabbats et les jours saints? Réponse. C'est mentionné dans Nombre chapitre 10, verset 10. Nous lisons dans Nombre chapitre 10, verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Version Louis II. Pour comprendre Néhémie chapitre 10, verset 31, nous devons regarder premièrement à Exode 3, verset 5, et tous les versets qui traitent du sujet, à partir de Néhémie, chapitre 10, versets 31 à 33, comme un bloc. Nous lisons dans Exode, chapitre 3, verset 5, Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Version Louis II. Néhémie 10, verset 31 à 33, nous lisons, « De ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête, des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat, des marchandises ou denrées quelconques, et de faire relâche la septième année en exigeant le paiement d'aucune dette. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. » Version Louis II. Le mot utilisé pour saint, Chodesh, voir le dictionnaire hébreu de Strong numéro 6944, signifie « mis à part », comme « séparé », et il se réfère à tous les jours mis à part pour l'Éternel. Et ce mot n'est pas simplement une référence au jour saint de la fête, et il doit être pris pour inclure les nouvelles lunes et le jour des expiations. Nous le voyons par l'inclusion de l'année de sabbat dans la référence, et dans chapitre 10, verset 32, il y a la référence directe aux expiations. Dans chapitre 10, verset 33, la structure entière des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes est incorporée, montrant ainsi que le texte, dans chapitre 10, verset 31, est spécifiquement expliqué dans les deux versets suivants, pour incorporer tous les jours saints aussi bien que les nouvelles lunes et les fêtes. Cela devrait être pris comme une preuve supplémentaire que la restauration de la loi sous Néhémie est impliquée dans la restauration des nouvelles lunes. Nous savons qu'il s'agit d'un fait historique, étant donné que les nouvelles lunes ont été observées à partir de Néhémie jusqu'à la destruction du temple en l'année 70 de la courante, et que nous savons qu'elles ont aussi été observées par la première église à la même époque. Voir Colossiens 2, versets 16 à 17. C'est un deuxième témoignage à Amos, chapitre 8, verset 5. Question. Le fait que nous sommes tenus de sacrifier et d'adorer les jours de nouvelle lune, est-il une preuve suffisante que ces jours devraient être traités en tant que sabbat? Qu'en est-il des autres jours qui sont semblables, comme les jours à l'intérieur des jours saints des fêtes, qui sont aussi des jours de sacrifice et d'adoration? Réponse. Durant le millénium, le millénaire, tous les gens observeront les fêtes. Par conséquent, toute la préparation devra être faite à l'avance, parce qu'il n'y aura personne avec qui négocier pendant ces jours. Il y aura alors une punition pour ne pas les observer, et celle-ci sera visible et immédiate. Présentement, la punition est la mort et la consignation à la deuxième résurrection. Elle n'est pas immédiatement visible, mais elle est néanmoins très réelle. Nous devrions examiner l'histoire dans le passé et quelle était la pratique. Le commerce qui était fait entre les jours saints de la fête était seulement une activité partielle ou un travail d'une nature limitée. Les gens ne faisaient pas de durs travaux pour le commerce. Il y avait seulement une activité minimale faite durant ces jours saints. Si nous ne pouvons pas aller travailler au milieu de la fête des tabernacles, alors nous ne pouvons certainement pas aller travailler au jour des nouvelles lunes non plus. C'est très clair. C'est ainsi que c'était vu anciennement. Question. Pourquoi la nation d'Israël a-t-elle fait des durs travaux aux nouvelles lunes en construisant le temple et en voyageant? Par exemple, Exode chapitre 40, verset 2, verset 17 à 18. Réponse. Examinons le contexte. Exode 40, verset 2 à 16 traite d'une cérémonie qui devait avoir lieu le premier jour saint de l'année sacrée, le premier jour du premier mois. Dans ce cas, le tabernacle devait être préparé pour que les objets à l'intérieur du tabernacle puissent être sanctifiés. L'ordination d'Aaron et de ses fils a ensuite eu lieu, et ils ont été oints dans le sacerdoce. Autrement dit, ce n'était pas un travail normal de jour ouvrable, ce n'était pas du commerce, c'était la préparation de la tente d'assignation pour tenir les services du jour. Nous lisons dans Exode 40, versets 2 à 16. « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage, et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table, et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier, et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage, et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis alentour, et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction, tu enoindras le tabernacle, et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes, et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras, et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques, et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, il fit ainsi. Version Louis II. Le chapitre saute alors au premier jour du premier mois suivant, un an plus tard. Le travail pour le tabernacle s'était fait durant toute l'année. C'était l'assemblage final du tabernacle. Et à cette occasion, il a été préparé pour la présence ou la gloire de Dieu. De nouveau, ce n'était pas un travail de jour ouvrable, mais la préparation de la place de réunion. Nous lisons dans Exode 40, versets 17 à 35. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en posa les bases, plaça les planches et les barres, et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle, et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche, il mit les barres à l'arche, et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle, il mit le voile de séparation, et il en couvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la table dans la tente d'assignation, au côté septentrional du tabernacle, en dehors du voile, et il y déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente d'assignation, en face de la table, au côté méridional du tabernacle, et il en arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile, et il y fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle, il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation, et il offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation, parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Version 8 secondes. Ce texte montre qu'ils étaient assemblés pour l'objet de l'adoration au temple. C'est en fait un texte qui prouve l'observance de la nouvelle lune comme un jour d'assemblée et de dédicace à l'Éternel, qui faisait partie de la sanctification du tabernacle. Voir l'étude de la sanctification du temple de Dieu, étude numéro 241. Tout cela était à propos de Christ et du nettoyage du temple avant la Pâque, lequel temple nous sommes. Référence. Question. Pourquoi le concept que la nouvelle lune est un sabbat n'est-il pas directement mentionné à plus d'endroits dans la Bible, comme le sont les jours saints et le sabbat? Réponse. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible d'événements significatifs qui ont eu lieu à une nouvelle lune. Regardons certains de ces événements. Après le déluge, les eaux ont été vues pour la première fois allant en diminuant le premier jour du dixième mois. Nous lisons dans Genèse chapitre 8, verset 5, « Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au dixième mois. Le dixième mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. » Version 8 secondes. En l'an 601, le premier jour du premier mois, la terre est devenue sèche et l'arche a pu être ouverte. Nous lisons dans Genèse chapitre 8, verset 13, « L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. » Version 8 secondes. On a donné à Moïse la charge du tabernacle et les instances de son contrôle et de son utilisation dans le désert qui a commencé à la nouvelle lune. Nous lisons dans Exode 40, verset 2, « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. » Version 8 secondes. Exode 40, verset 17, « Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. » Version 8 secondes. Les fêtes sont des exemples importants. Le nouvel an au premier mois, nous lisons dans Psaume 81, verset 3, « Sonnez de la trompette à la nouvelle lune au temps fixé, au jour solennel de notre fête. » Version King James de la Bible. Le jour des trompettes au septième mois, nous lisons dans Lévitique 23, verset 24, « Parle aux enfants d'Israël et dis, le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. » Version 8 secondes. Nombre 29, verset 1, « Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. » Version 8 secondes. Pour la sanctification du temple, nous lisons dans Deutéronome 29, verset 17, « Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. Le huitième jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel, et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. » Version 8 secondes. Entre parenthèses, comparer les études de la sanctification du temple de Dieu, étude numéro 241, et la sanctification des simples et des gens erronés, étude numéro 291. Le temple était sanctifié pendant 7 jours, et le 7e jour, il sanctifiait les simples et les gens erronés, et Israël était sanctifié. Puis il procédait à travers la période suivante jusqu'à la Pâque, du 8e jour au 10e jour, quand il mettait de côté l'agneau de la Pâque. Puis le 14e jour, ils sortaient de leur porte, voir Deutéronome 16, versets 5 à 7, et tout Israël observait la Pâque du début du 14e jour, et en veillant pendant la nuit du 15e jour, et ensuite, le jour saint du 15e jour, ils avaient un service et le sacrifice, et achevaient cette soirée le 16e jour. Les pains sans levain continuent ensuite pendant 6 autres jours, avec le dernier jour étant un jour saint. La nouvelle lune des trompettes était aussi utilisée comme un jour de restauration de la loi de Dieu. Nous lisons cela dans Néhémie, chapitre 8, verset 2. « Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. » Version Louis II. La nouvelle lune était un jour pour parler au peuple, dans son ensemble, en assemblée commune. Nous lisons dans Nombre, chapitre 1, verset 1 à 5. « L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit, « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. » Version Louis II. Nous voyons ici le concept que la nouvelle lune est un point central pour l'assemblée de l'armée de Dieu. Lisons dans Nombre 1, verset 18. « Et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois. On les enregistra selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. » Version Louis II. Cet événement extrêmement important est survenu lors d'une nouvelle lune, et Dieu a parlé par l'entremise de Moïse à Israël dans l'assemblée commune. C'était un jour utilisé pour la prophétie. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 1, verset 3, « Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. » Version Louis II. Beaucoup d'activités significatives ont eu lieu ce jour-là. Nous voyons cela dans Exode 19, verset 1. « Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. » Version Louis II. En continuant à lire ici, nous constatons qu'Israël arrête de voyager et que Moïse monte sur la montagne pour parler à Dieu. Ayant reçu ses instructions, Moïse parle au peuple ce jour-là. Aaron a aussi été pris à Dieu à la nouvelle lune du 5e mois de la 40e année de l'Exode. Nous lisons dans Nombre 33, verset 38. Le sacrificateur Aaron monta sur la montagne de Hor, suivant l'ordre de l'Éternel. Et il y mourut la 40e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, le 5e mois, le premier jour du mois. La restauration de la construction du temple, comme la restauration de la loi, a eu lieu à la nouvelle lune des trompettes. Lisons dans Esdras chapitre 3, verset 6, « Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. » Version Louis II. Le début du voyage de la restauration de Néhémie a commencé à se produire au nouvel an, à la nouvelle lune. Le commencement s'est produit à une nouvelle lune. Ainsi, il n'est donc pas simplement parti, il a commencé. Comme toutes les restaurations principales, elle a été effectuée par et lors de ces cérémonies des nouvelles lunes. Nous lisons dans Esdras chapitre 7, verset 9, « C'est le premier jour du premier mois qu'il commença à monter de Babylone, et c'est le premier jour du 5e mois qu'il arriva à Jérusalem, la main bienfaisante de son Dieu étant sur lui. » Version Crampon. Il est arrivé à la nouvelle lune du 5e mois. Devons-nous assumer aucune signification à cet événement et tout simplement dire qu'il est arrivé de voyage, ou devons-nous supposer que c'était un jour d'assemblée et qu'il a planifié son arrivée pour cet événement? Rien n'est sans conséquence ou sans symbolisme dans le récit de la Bible. Nous lisons dans Esdras, chapitre 10, versets 16 à 17. « Auxquels se conformèrent les fils de la captivité ? On choisit Esdras le sacrificateur et des chefs de famille selon leur maison paternelle, tous désignés par leur nom, et ils siégèrent le premier jour du 10e mois pour s'occuper de la chose. Le premier jour du premier mois, ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés avec des femmes étrangères. » Version Louis II. Ici, de nouveau, c'était un jour où Esdras et les hommes choisis n'étaient pas à leur travail de jour ouvrable, mais ils s'occupaient des choses de l'Église. Ils ont commencé à la nouvelle lune et au nouvel an. Ils avaient préparé Israël pour la sanctification du temple de Dieu. Nous voyons Nissan ou Abib de nouveau mentionné ici comme le premier mois. Nous lisons dans Esther chapitre 3 verset 7 verset 12. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Ahasuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Haman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois. Version 8 secondes. Question. Les prophètes étaient-ils consultés les jours de sabbat et de nouvelle lune? Réponse. Le livre d'Ézéchiel est clair que c'était le premier jour d'un mois que Dieu lui a parlé. Dieu nous parle quand nous sommes capables d'écouter, pas quand nous sommes occupés avec les affaires quotidiennes de nos vies. Nous lisons dans Ézéchiel 26, verset 1. La 11e année, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Version Louis II. Ézéchiel était devant Dieu aux nouvelles lunes, et il a alors reçu la prophétie parce qu'il était obéissant à Dieu. Nous lisons dans Ézéchiel 32, verset 1, la 12e année, le premier jour du 12e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Version Louis II. Ézéchiel 29, verset 17, nous lisons la 27e année, le premier jour du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Version Louis II. Et Ézéchiel 31, verset 1, nous lisons, « La 11e année, le premier jour du 3e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Version Louis II. La même chose s'applique à Agé. Nous lisons dans Agé chapitre 1, verset 1, « La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Skeshtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur en ces mots. » Version Louis II. La Bible rend très clair que c'est lors des nouvelles lunes que Dieu parlait avec les prophètes, quand ils étaient devant lui ou à son service. Pourquoi Zorobabel, prince en Juda, consultait-il un prophète à la nouvelle lune? La réponse à partir des textes multiples montre que c'était parce qu'ils allaient devant Dieu ces jours-là et qu'ils donnaient la révélation par les prophètes ces jours-là. L'histoire de Jonathan et de David dans 1 Samuel indique que c'était un jour où David serait manqué s'il n'était pas présent à la table du roi à la nouvelle lune. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 20 verset 4 à 17. Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » Et David lui répondit, « Voici, c'est demain la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller, et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras, « David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Et s'il dit, c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Et s'il y a quelque crime en moi, ôte-moi la vie toi-même. Car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père ? » Jonathan lui dit, « Loin de toi la pensée que je ne t'informerai pas, si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre. » David dit à Jonathan, « Qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait durement ?» Et Jonathan dit à David, « Viens, sortons dans les champs. » Et ils sortirent tous deux dans les champs. Jonathan dit à David, « Je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain. Et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi, et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix, et que l'Éternel soit avec toi, comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. » Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Jonathan lui dit, « C'est demain la nouvelle lune, on remarquera ton absence, car ta place sera vide. » Version Louis II. Nous lisons dans 1 Samuel 20, verset 24, « David se cacha dans les champs, c'était la nouvelle lune, et le roi prit place au festin pour manger. » Version Louis II. Il est évident que les nouvelles lunes étaient des jours connus d'avance. Les gens étaient punis du fait de ne pas être présents. Elles débutaient par des banquets. Il était habituel de demander conseil des prophètes au jour de nouvelle lune et de sabbat. Cela ne peut pas être fait si on travaille ce jour-là. Nous lisons dans 2 Rois, chapitre 4, verset 23. Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Version 8 secondes. Voyons maintenant les sacrifices et les offrandes. Question. Qu'est-ce qui était signifié par le nettoyage du sanctuaire à la nouvelle lune du premier mois ? Réponse. Tout le système d'adoration en Israël était basé autour du tabernacle et du temple. Ce tabernacle et ce temple physique étaient une copie de la structure céleste qui est un édifice spirituel. On a montré à Moïse un plan pour la construction du tabernacle physique. L'adoration de Dieu devait être pure et il désirait être adoré en esprit et en vérité. Le système physique désignait le Messie et le temple spirituel qui était l'Église. Nous, en tant que l'Église, sommes le temple spirituel. Le physique devait être nettoyé et le sacerdoce préparé pour la Pâque, comme nous devons être nettoyés et préparés pour le deuxième sacrement. Seulement, ceux qui ont été baptisés en tant qu'adultes repentants dans le corps de Christ peuvent prendre part au dîner du Seigneur et premier élément de la Pâque. C'était la signification derrière le nettoyage du temple effectué par Christ tant au début de son ministère qu'avant la Pâque de sa mort, quand il a établi le dîner du Seigneur au jour de la préparation du repas Chagigah. Ainsi, le nettoyage physique nous désignait comme le temple spirituel fait de pierres vivantes. Par notre action, nous intercédons pour les simples et les erronés d'Israël et aidons ainsi à protéger la nation. Nous aidons au nettoyage spirituel du temple et ainsi nous aidons à sanctifier la nation dans laquelle nous résidons. La communion du dimanche banalise entièrement ce processus et nie la loi de Dieu. La nouvelle lune du premier mois est le point de départ de ce processus et la lune représente l'Église. Le judaïsme nie aussi la loi de Dieu à cet égard, par sa pratique babylonienne de Rosh Hashanah en Tishri. Les actions de Christ dans le nettoyage du temple étaient faites conformément à l'Écriture. Christ a effectué le nettoyage du temple de Dieu par un acte physique, en nettoyant les prêteurs, et ceci venait de la loi et du nettoyage du temple de Dieu. Nous lisons dans Ézéchiel 45, verset 18, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le premier jour du premier mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut, et tu feras l'expiation du sanctuaire. » Version 8 secondes. Ce nettoyage commençait le processus de réconciliation de l'homme avec Dieu. C'était d'abord un acte physique dans un temple physique, pour représenter le nettoyage spirituel du temple spirituel. Nous sommes ce temple spirituel et le nettoyage commence avec nous, à la première nouvelle lune de chaque année. Cela continue ensuite tout au long de l'année, d'une nouvelle lune à une autre. Cela continuera dans le millénium. Nous lisons dans Nombre chapitre 28, versets 11 à 15. « Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel deux jeunes taureaux, un bélier et sept agneaux d'un an sans défaut. Et comme offrande pour chaque taureau, 3/10 de fleurs de farine pétries à l'huile. Comme offrande pour le bélier, 2/10 de fleurs de farine pétries à l'huile. Comme offrande pour chaque agneau, 1/10 de fleurs de farine pétries à l'huile. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Les libations seront d'un demi hin de vin pour un taureau, d'un tiers de hin pour un bélier, et d'un quart de hin pour un agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois, pour chaque mois, pour tous les mois de l'année. On offrira à l'Éternel un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'holocauste perpétuel et la libation. » Version 8 second. C'est maintenant un acte spirituel dans un temple spirituel, ce qui le rend plus puissant et tout aussi obligatoire. Question. Est-ce que les nouvelles lunes continueront ? Réponse. Ces nouvelles lunes sont avec les sabbats et les jours de fête, pour toujours. Ou continuellement devant l'Éternel. Nous lisons dans 1 Chronique 23, verset 31. Et à offrir continuellement devant l'Éternel tous les holocaustes à l'Éternel, au sabbat, aux nouvelles lunes et aux fêtes, selon le nombre et les usages prescrits. Version 8 secondes. Nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 2, verset 4. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition, et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. Version 8 secondes. Ce processus continue dans les trois fêtes. Les trompettes sont une nouvelle lune, et de là, seul le jour des expiations est omis ici. C'est un jour de jeûne. Nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 8, verset 13, « Il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et pour les fêtes, trois fois l'année, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. » Version 8 secondes. L'impôt du prince est pour les sacrifices, et c'est la responsabilité même du prince de les fournir à partir de l'impôt. Nous lisons dans 2 Chroniques 31, verset 3, « Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Version Louis II. Nous lisons dans Esdras 3, verset 5. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux des quiconques faisaient des offrandes volontaires à l'Éternel. Version Louis II. Nous lisons dans Néhémie chapitre 10, verset 33. Pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël, et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Version Louis II. Nous lisons dans Ézéchiel 45, verset 17. Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes et des libations, aux fêtes, aux nouvelles lunes, aux sabbats, à toutes les solennités de la maison d'Israël. Il offrira le sacrifice expiatoire, l'offrande, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce en expiation pour la maison d'Israël. Version Louis II. Entre parenthèses, consultez l'étude du prélèvement de la dîme, étude numéro 161. Voici un exemple particulièrement important, parce qu'il montre clairement qu'Ézéchiel fermait la porte de la cour intérieure les jours ouvrables, mais qu'elle était ouverte pour l'adoration les jours de sabbat et de nouvelle lune. Nous lisons dans Ézéchiel 46, versets 1 à 6. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. La porte du parvis intérieur, du côté de l'Orient, restera fermée les six jours ouvriers. Mais elle sera ouverte le jour du sabbat. Elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Le prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure et se tiendra près des poteaux de la porte. Des sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'action de grâce. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira. Et la porte ne sera pas fermée avant le soir. Le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte, au jour de sabbat et aux nouvelles lunes. L'holocauste que le prince offrira à l'Éternel le jour du sabbat sera de six agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut. Et son offrande d'un épha pour le bélier, et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un hin d'huile par épha. Le jour de la nouvelle lune, il offrira un jeune taureau, sans défaut, six agneaux, et un bélier, qui seront sans défaut. Version Louis II. Le prince entre par cette porte ces jours-là, parce que cela symbolise le Messie, agissant dans l'entrée en Israël, les jours fériés, jours mis à part comme saints pour Dieu. Christ vient à l'Église et s'occupe de nous, les jours saints, les sabbats, et les nouvelles lunes. C'est un autre exemple très important se rapportant aux nouvelles lunes et à leur importance quant à l'Esprit Saint qui entre en nous et qui commence à nous réorganiser et à nous nettoyer. C'est le symbole de la porte étant ouverte et du Messie qui entre. Vous remarquerez que l'adoration est dirigée sur les deux jours. Ézéchiel reçoit l'ordre du système millénaire aussi. Question. La nouvelle lune a-t-elle été abolie avec les sacrifices? Réponse. Les sacrifices ont été continués à tous les sabbats, nouvelles lunes et jours saints. Le quatrième commandement subsiste. Seuls les sacrifices comme tels ont été éliminés une fois pour toutes parce que Christ, par sa crucifixion et sa mort, a cloué au pieu notre facture de dette de péché, ou le chirographon une fois pour toutes. Soutenir que les nouvelles lunes ont été éliminées avec le sacrifice revient à soutenir l'élimination du quatrième commandement, ce qui est évidemment faux. Question. Pourquoi Dieu permet-il que ces jours saints ne soient pas observés? Réponse. La Bible est écrite pour que les gens qui ne sont pas appelés à faire partie d'Israël ne comprennent pas. C'est pourquoi Christ a parlé en parabole. Voir l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 10 à 14, chapitre 10, verset 34 à 35, l'évangile de Marc, chapitre 4, verset 11. Dieu déteste la corruption de ces jours saints. Nous lisons dans Ésaïe, chapitre 1, verset 13, « Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. » Ésaïe 1, verset 14, nous lisons « Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. » Version Louis II. Ésaïe 47, verset 13 « Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. » Version Louis II. Ici, les faux prophètes ont corrompu la prophétie par l'astrologie et la divination. Dieu a alors dit qu'il mettrait fin à ces sortes de fêtes, de nouvelles lunes et de sabbats. Cela signifie-t-il que Dieu éliminerait le sabbat ou les nouvelles lunes ou les fêtes? Non, cela signifiait qu'il empêcherait les faux adorateurs de les observer. Osée chapitre 2, verset 11 nous dit « Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. » Version Louis II. Amos est clair que la populace voyait les nouvelles lunes et les sabbats comme un obstacle à leur commerce et à leur devoir du monde temporel. Lisons dans Amos chapitre 8, verset 5. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les fats, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Version Louis II. Dieu ne permet pas aux gens d'observer ses fêtes et ses nouvelles lunes et son calendrier correct, parce qu'ils sont de faux adorateurs, et seulement ceux de l'Église de Dieu de la première résurrection sont permis de les observer. Les autres adorent de faux dieux, les mauvais jours, sous un faux calendrier, et ils ne connaissent pas mieux. Ils ne sont tout simplement pas en jugement maintenant. Nous voyons de David et Jonathan que la nouvelle lune était un banquet obligatoire en Israël. David savait que la seule excuse valable qu'il aurait de ne pas être présent à un événement obligatoire connu à l'avance était de l'observer avec sa famille à un endroit en Israël. C'était la pratique même d'avoir ses repas obligatoires et d'essayer alors de reprendre les tâches normales et le commerce, les jours de sabbat et de nouvelle lune, qu'Amos condamne spécifiquement. Ces gens observaient les nouvelles lunes, mais ils essayaient de hâter la fin du jour pour pouvoir faire du commerce. Dieu les a condamnés par le prophète Amos pour une telle activité, bien qu'ils les aient observés. Combien plus condamnables sont ceux qui ont des banquets ou des repas spéciaux, les reconnaissant ainsi, et qui cependant font du commerce, quand même le jour du sabbat ou de la nouvelle lune. Quelqu'un soutiendrait-il qu'ils peuvent faire du commerce le jour du sabbat parce qu'ils ont un repas spécial le soir du sabbat? Comment une telle logique peut-elle alors s'appliquer à la nouvelle lune? Question: Christ observera-t-il les nouvelles lunes quand il reviendra? Réponse: durant le millénium ou millénaire, les sabbats et les nouvelles lunes seront observés. Nous lisons dans Isaïe 66, verset 23, « À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. » Version Louis II. Le Nouveau Testament les mentionne aussi. Cela ne parle pas de l'option de les observer ou pas, mais simplement de la façon qu'elles sont observées. Cependant, l'injonction de les observer ainsi que la loi est claire à partir des Écritures précédentes. Nous lisons dans Colossiens 2, verset 16, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. » Version Louis II. Ces Écritures montrent clairement que les nouvelles lunes étaient importantes en Israël tout au long de son histoire. Nous savons de Josephus qu'elles étaient observées durant la période entière du temple et que le souverain sacrificateur servait dans le temple aux nouvelles lunes et les jours de sabbat. L'Église du Nouveau Testament les a aussi comprises. La question n'a pas été adressée dans le Nouveau Testament parce qu'elle n'en était pas une. Toutes les épîtres des apôtres traitent des problèmes qui ont surgi dans les diverses églises. L'Église de Dieu a observé les nouvelles lunes pendant des siècles. Nous savons pour un fait qu'à la Réforme, l'Église observait le calendrier entier intact, comme il était dans la période du Temple. Voir l'étude Le rôle du quatrième commandement dans l'histoire des Églises de Dieu, observant le sabbat. Étude numéro 170. Et l'ouvrage de Cohn, The Sabbatarians in Transylvania, CCG Publishing, 1998. Le Nouveau Testament est un commentaire de l'Ancien Testament. Ce n'est peut-être pas une exigence de démontrer que les nouvelles lunes doivent être observées, mais étant donné la preuve, il est impossible de démontrer qu'elles doivent seulement être reconnues. Les nouvelles lunes sont critiques au calendrier. Dieu a dit qu'il ne permettrait pas aux faux adorateurs d'observer leur apostasie durant ces jours de fête, comme nous venons de le voir. À partir de ces textes ici, il est tout à fait évident qu'Israël observait les nouvelles lunes. Il les observait comme des jours d'assemblée. Lire cela d'une autre façon n'est qu'une manipulation entêtée de l'Écriture. La compréhension de la nouvelle lune est la dernière phase de la restauration de l'individu à la connaissance du seul vrai Dieu et de Jésus-Christ, ou à Joshua, Josué le Messie, qu'il a envoyé, voir Jean 17, verset 3. La nouvelle lune est essentielle pour observer le calendrier original, et de là, les vraies fêtes du seul vrai Dieu. En faisant des nouvelles lunes le dernier et le plus difficile aspect de la restauration, seulement ceux avec la vraie foi peuvent retourner à Dieu et observer ses fêtes durant ses jours, sous ses termes et lois. Vous devez être diligent en essayant d'observer les lois de Dieu. Vous devez être diligent en cherchant à comprendre la foi, afin d'être permis d'observer les fêtes de Dieu, parce que c'est un honneur, et que les nouvelles lunes font partie de ce système. Jusqu'à ce que vous les compreniez, vous ne pouvez pas entièrement comprendre le système de Dieu. Une étude plus approfondie devrait être faite à partir des études suivantes. L'offrande de la gerbe agitée, étude numéro 106b, les récoltes de Dieu, les sacrifices des nouvelles lunes et les 144 000, étude numéro 120. Les nouvelles lunes, étude numéro 125. Les nouvelles lunes d'Israël, étude numéro 132. Les trompettes, étude numéro 136. Le calendrier de Dieu, étude numéro 156. Le prélèvement de la dîme, étude numéro 161. Le rôle du quatrième commandement dans l'histoire des églises de Dieu observant le sabbat, étude numéro 170. Tichiri en relation avec Equinox, étude Moro 175, Jéroboam et le calendrier Hillel, étude Moro 191, le calendrier et la Lune, ajournement au festival, étude Moro 195, la Lune et le Nouvel An, étude Moro 213, la sanctification du Temple de Dieu, étude Moro 241, la restauration de Josias, étude Moro 245, le premier grand commandement, étude Moro 252, la loi et le quatrième commandement, étude Moro 256. Fin de la lecture de l'étude « Questions fréquemment posées, les nouvelles lunes », étude Moro 158.